Alors je vous propose ce matin de méditer sur le texte du jour qui nous est proposé. Un texte que nous trouvons dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3. Un texte relativement connu. Je vous invite à écouter. Voici ce que dit Paul à ses chers amis philippiens. Je vais même plus loin que tout ce qu'il vient de dire. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Oui, tout cela, je le considère maintenant comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans la mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection des morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, mes frères, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant tout ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous voulons nous approcher maintenant de toi, de ta parole, à genoux, pour recevoir ta vérité, ta lumière, pour qu'elle nous édifie, qu'elle nous corrige, qu'elle nous instruise. Seigneur, que ton Esprit Saint nous remplisse, me remplisse aussi, pour qu'ensemble nous puissions découvrir les richesses de ta parole et que nous puissions les mettre en pratique. C'est dans ton nom que nous te prions. Amen. Alors vous le savez, Paul utilise souvent différentes images pour parler de la vie chrétienne ou pour parler à l'Église. Il utilise parfois le corps, vous le savez. Dans cette même épître aux Philippiens, il parle de combat, chapitre 1, verset 30. Et là, il utilise une image que j'ai envie de développer ce matin, celle de la course. C'est pour ça le titre « La marche chrétienne, une course ?» point d'interrogation. Et alors là, vous allez me dire, mais Fred, courir, je ne peux pas. Je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas d'endurance. Oui, mais alors je vous rassure tout de suite, celui qui parle de course est arrêté. Celui qui parle d'élan de vie, d'orientation de course, est arrêté, dans les deux sens du terme, puisqu'il est en prison. Paul est en prison. Et il parle de courir. Il est arrêté dans son parcours, dans son témoignage, et voilà qu'il adresse cette bête lettre aux Philippiens en leur demandant de courir. Donc ce n'est pas une course sportive au premier sens du terme. Et vous allez le voir au gré de notre méditation de ce matin. D'abord, nous allons voir la première règle, première condition de cette course que Paul adresse. Elle pourrait se résumer ainsi. Abandonne. Abandonne. Alors là, vous allez me dire, mais démarrer une course en abandonnant, on est mal parti. Une autre devise de Paul pourrait être, au fond, perdre mieux pour gagner mieux. Ou mieux perdre pour gagner mieux. Et il le dit par trois fois. Au verset 8, et il l'a déjà dit au verset 7, Je considère ces choses comme une perte. J'ai accepté de perdre tout cela. Je le considère comme des ordures, bon à être rejeté. Alors que faut-il abandonner ? Telle est la question que Paul nous soumet ce matin. Et il l'a déjà dit, il l'a précisé. Ce qu'il faut perdre, c'est tous ces sujets de gloire qu'il pouvait avoir. Vous le connaissez, Paul, circoncis le huitième jour, comme la loi le prévoit, israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, pur sang hébreu, un respect profond et zélé de la loi, un zèle mortel, puisqu'il allait jusqu'à persécuter l'Église de Christ. Il était, pour son époque, un homme pas mal. C'était quelqu'un. Et tout ça, toutes ces choses, ces sujets de gloire, ces sujets qui lui permettaient de voir les autres avec un regard un peu condescendant, vous savez. Moi, je suis toutes ces choses-là. Il a dit, il faut abandonner, il faut lâcher. L'humilité, chers amis, c'est la condition ultime du départ de cette course dont parle Paul. Accepter de tout enlever, toutes ces couches d'orgueil, ces sujets de gloire, ces bandeaux de gloire, ces médailles, tout cela, accepter de les jeter, de les perdre, se mettre à nu pour commencer la course. Alors, mais pourquoi cette règle si étrange ? Pourquoi l'humilité ? Et en fait, Paul ne fait que reproduire ce que ce grand coureur a fait avant lui. Un coureur merveilleux, un coureur qui a laissé encore des traces de ses pas. Et ce grand coureur, vous le connaissez, c'est Jésus. Celui qui, lui, avait beaucoup de sujets de gloire, et à juste titre. Lui n'a pas regardé à ses sujets de gloire, et il s'est dépouillé. Et il s'est rendu semblable aux hommes en tout point, jusqu'à être leur serviteur, laver leurs pieds et cheminer jusque la croix. Voilà pourquoi Paul pose cette condition. Parce que le grand champion qui était avant lui, lui a montré les conditions de départ. Il faut s'abandonner, nous dit Paul, tout abandonner pour suivre le Christ. Car en réalité, aucun privilège, aucun statut, aucun mérite ne nous permettra d'aller jusque la ligne d'arrivée, de nous présenter devant Dieu. Et ça, Paul le sait. Alors il faut marcher, courir en acceptant de tout perdre, tous ces sujets de gloire. Parce que, chers amis, l'Évangile change tout. L'Évangile nous dit qu'il faut savoir perdre pour gagner. Et alors la question, c'est, on veut bien perdre, mais pour gagner quoi ? Quel est le gain ? Ici, elle se résume en un mot, deux mots, connaître Christ. Connaître Christ, ou gagner Christ. Voilà le gain. Mais il ne s'agit pas d'une connaissance factuelle. Ah tiens, c'est Jésus, c'est lui le Christ. Où il ne s'agit pas de connaître la bonne divinité à adorer, mais il s'agit de connaître au sens de la relation intime, personnelle, possible avec Dieu. Dans Galates 2:20, Paul parle de Jésus comme celui qui l'a aimé et qui s'est donné pour lui. Lui, que nous avons évoqué tout à l'heure, ce persécuteur. Parce qu'il faut, il faut s'imaginer qui était Saul et ce qu'il a fait à Jésus. Il faut l'imaginer. Parfois, on lit les textes avec un certain détachement. Mais si on les met dans notre contexte actuel, ce Paul passait toute son énergie, pour des raisons légitimes selon lui, à tuer, à persécuter les amis du Christ. Et qu'est-ce que le Christ a fait ? Il aurait pu, à juste titre, se venger, anéantir en un claquement de doigts ce Saul, mais ce Christ-là a tellement aimé cet homme-là qu'il l'a arrêté dans sa course folle. Il l'a arrêté. Est-ce qu'on peut imaginer un homme zélé, massacreur en tout point, être retourné comme une crêpe par le Christ, être transformé et nous écrire une telle chose après? Il nous conduit sur les chemins de l'humilité parce qu'il sait bien que toutes ces petites choses, toutes ces réalités qu'il défendait, qui le rendaient digne dans le monde, à côté du privilège, de la joie d'être aimé par un tel homme, toutes les choses pâlissent. Il y a un chant comme ça, hein, toutes ces choses pâlissent devant cet homme, devant ce Christ qu'il a aimé. Christ est allé jusqu'au bout, nous dit Paul, par amour. Il a accepté d'accomplir la justice, d'être ce représentant des hommes sur la croix, alors que même nous ne méritions rien. Et c'est là que nous comprenons que c'est une course assez étonnante. Un homme parfait, un homme qui était confortablement au ciel avec son Père, décide de se rendre serviteur de celles et ceux qu'il aime. Vous imaginez l'émerveillement que c'est de connaître le Christ. Il est celui qui nous a aimés le premier. Chers amis, Paul nous invite à ne pas être les habitués de la grâce, ne jamais être habitués de la grâce et à nous émerveiller sans cesse de ce que c'est que connaître le Christ et d'être aimé par lui. Deuxième point, donc nous savons le départ, mais le problème c'est que la ligne d'arrivée est un petit peu floue. Et Paul nous indique là où il en est dans sa course. Il est en train de courir, nous dit-il. Il est en cours de route. Il n'est pas parvenu à la perfection. Oubliant ce qui est derrière moi, dit-il, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course. Il n'est pas arrivé, Paul. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rassure. Nous ne sommes pas parfaits. Désolé, amis. Parfois, on a tendance à vivre comme si nous étions parfaits et à attendre même des autres qu'ils soient déjà arrivés. Mais Paul nous dit non. On est en route, en marche. Alors, s'il y a des petites choses qui vous déplaisent chez vos frères et vos sœurs, des choses qui font... C'est normal. On est en route. Il ne s'agit pas ici de s'immobiliser, de s'arrêter, de dire « bon, c'est comme ça, je ne serai jamais parfait ». Non, Paul nous dit « je ne suis pas parfait, mais je tends vers la perfection ». On y va. Je cours. Alors, une question va surgir. C'est bien de savoir qu'on est en cours de route, que la ligne d'arrivée, c'est d'être parfait, mais qu'est-ce qu'être parfait ? Qu'est-ce que la perfection ? Paul parle. Parce que je suis sûr qu'on n'a pas la même définition de ce qu'est être parfait. Qu'est-ce qu'un mari parfait? Une femme parfaite? Un président de la République parfait? Un pasteur parfait? On n'a pas la même définition. Certainement pas. Alors il nous faudrait un exemple. Et Paul nous en donne un. Le Christ. Jésus. Celui qui a connu cette humiliation pour ensuite connaître la gloire. Voilà le modèle qu'il nous donne. Alors on va dire, oui, mais d'accord, Jésus était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Alors, un modèle pas tout à fait accessible. Mais Paul dit, mais regardez-moi. Regardez-moi. Ancien membre de Daesh, converti au Christ. Et maintenant, je suis en prison pour la cause même que j'étais en train de, anéantir, détruire. Suivez-moi. Faites comme moi. On y va. On est dans la course. On est dans la course. La ligne d'arrivée est encore floue. Nous ne savons pas. Quand est-ce que nous allons arriver devant Dieu ? Quand est-ce que nous allons pouvoir lui parler, être en sa présence sans crainte ? Nul ne le sait. Certains nous ont précédés dans cette rencontre. Mais nous ne savons pas quand est-ce qu'aura lieu ce moment où la dernière ennemie qu'est la mort sera anéantie pour toujours. Alors nous vivons au milieu de cette course. Entre ce « déjà », on bénéficie d'un certain nombre de choses, du fait de connaître le Christ, mais il n'y a pas encore la plénitude. Nous sommes au milieu de la course, nous courons, sachant que la victoire est déjà remportée. Mais quand est-ce que nous la verrons pleinement ? Nous ne le savons pas. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse. Parce qu'on a parlé de course, mais on n'a pas parlé de la nature de la course. Est-ce qu'il s'agit d'un marathon, d'une course en sac, d'une course à vélo ? De quelle course est-il en train de nous parler, ce cher Paul ? Un mot. Cette course, c'est l'Évangile. Cette course, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car Christ a accepté de courir. Cette course assez étonnante, assez étrange. Paul a accepté de courir cette course étrange qui commence par l'humilité, qui finira par une grande victoire. Ils ont accepté de courir pour les autres. Ils n'ont pas regardé à leur propre intérêt, mais ils ont regardé les autres et leur profond besoin d'entendre la bonne nouvelle. Voilà ce qu'est la course, ce qu'est notre course. La course de l'Église, c'est un moment où on court pour l'Évangile, on vit de l'Évangile comme des enfants de la grâce, et nous vivons pour l'Évangile. Car ce trésor, nous n'avons pas à le garder pour nous-mêmes, à le laisser bien enfermé au chaud dans notre Église. Mais connaître le Christ, c'est aussi accepter de courir à sa suite et de faire grandir l'équipe des athlètes. Chers amis, nous sommes associés avec le Christ. Nous sommes ses amis dans ce parcours. Nous avons, c'est vrai, accepté de le suivre dans l'humilité. Nous savons qu'un jour, il y aura ce grand moment de gloire. Mais si nous sommes amis et associés avec le Christ, à ces deux moments-là, si nous acceptons d'être humiliés, de nous humilier, de tout abandonner pour le Christ, pour qu'un jour nous soyons glorifiés, il y a un entre-temps. Il y a des moments dans cette course, entre ces deux étapes. Un moment où nous aurons peut-être des petits cailloux dans les chaussures, des entorses. Mais le Christ nous invite à tourner nos regards vers lui, à tourner nos regards vers les autres, à aimer les autres, au point de leur annoncer l'Évangile. Pourquoi ? Pourquoi accepter ces souffrances dans cette course de l'Évangile ? Pourquoi, Seigneur, dois-je souffrir en tant que chrétien dans cette course ? Paul nous dit, mais parce que le Christ a fait cela pour toi. Il a choisi un chemin qui lui a coûté énormément. Alors si tu te lances dans cette course, ne sois pas habitué de la grâce. Tu entends des sermons, des messages dimanche après dimanche, mais mesure la grâce et le prix de la grâce. Et tu verras que ces souffrances, elles font partie de cette course. Tous les gardiens de l'empereur savaient pourquoi Paul était en prison. Et Paul nous dit que son emprisonnement a encouragé les frères. Il ne les a pas découragés, mais encouragés. À quoi ? À partir ? À fuir ? À se cacher ? Non ! À annoncer la parole de Dieu aux hommes et aux femmes. Parce qu'il a compris, ils ont compris, que dans cette course, les souffrances font partie du jeu. Parce qu'il y a des persécutions, des adversités. Le prix est garanti, la victoire est garantie. Mes chers amis, si nous courons pour le Christ, il y a des risques. Risques d'entorses, de petits cailloux, de grandes blessures, qui peuvent venir de l'extérieur comme de l'intérieur. Mais nous sommes en route, nous dit Paul. Et nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas une course en solitaire que nous faisons. Parce que c'est ça qui est assez incroyable, c'est que de la ligne de départ à la ligne d'arrivée, toute cette course est gérée, prévue, portée par le Christ. C'est lui qui nous aide, qui nous assiste, qui nous conduit à mesurer le privilège d'être son enfant, son ami. Et il nous donne même, pas du dopant, pas des produits vitaminés, mais de la puissance. Alors, on entend beaucoup de choses sur la puissance. Mais là, c'est la puissance de la résurrection qu'il nous donne. Grand mot, pour signifier ce que le Saint-Esprit va faire, est en train de faire dans la vie de ses coureurs. Il est là pour les consoler, pour les vivifier, pour les relever quand ils chutent. Le Saint-Esprit est là pour donner les capacités de vouloir et de faire les choses. Autrement dit, il nous donne la capacité de vouloir et de faire cette course aussi. Nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas une course en solitaire. Car cette intimité que nous avons avec le Christ, c'est aussi cette intimité que nous avons avec l'Esprit-Saint, qui nous aide à courir. Et nous ne sommes pas seuls, parce que c'est une course en équipe, avec des frères et des sœurs. Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une équipe d'athlètes. Alors un peu particulier, certes, mais nous sommes une équipe pour tendre ensemble, pour courir ensemble sur le chemin de la vie. Et nous ne sommes pas seuls parce qu'il y a autour de nous beaucoup de personnes qui courent, peut-être à contresens, beaucoup de personnes qui sont autour de nous mais qui ne sont pas des adversaires, des personnes qu'il faudrait écraser pour être le premier à l'arrivée. Parce que de toute façon, nous ne serons jamais les premiers. Et la victoire ne sera pas forcément la nôtre. Elle est celle du Christ avant toute chose. Mais ce sont des personnes qui ont besoin de l'Évangile, besoin de rejoindre notre équipe. Alors pour conclure, Paul nous invite ce matin à être cruciformes, pas comme les tournevis ou les vis, mais marqués par la croix, empreints de la personne du Christ. Nous avons à grandir encore et encore dans l'amour, dans l'unité, dans la paix. Comment ? Comme le Christ, en nous laissant imprégner de son Esprit Saint, pour qu'il nous conduise à l'humilité, pour qu'il nous conduise à la capacité de courir encore plus loin. Et une fois que nous avons compris quel genre de compétiteurs nous sommes, quel genre de coureurs nous sommes, humbles devant Dieu, enfants de la grâce, aimés par le Christ, assistés de l'Esprit Saint pour courir, quand on mesure tout ça, alors on peut entendre ce que dit Paul à son Église. Écoutez ce qu'il dit. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Et voici ce qu'il dit à son Église qui vit dans ce monde. Faites fructifier votre salut. Faites tout sans vous plaindre, comme le Christ l'a fait, pour être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez. Nous l'avons chanté, « Brille Jésus », mais nous brillons aussi, nous dit-il, comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de la vie. Unité, humilité, amour inconditionnel, bienveillance, qui cherche le bien de l'autre. Voilà les qualités d'un bon athlète pour le Christ, d'une bonne équipe d'athlètes qu'est l'Église. C'est un défi sportif pas facile, pas facile. Mais le défi est à relever avec celui qui nous a saisis. Quelle belle image, Christ nous a saisis, dit Paul, pour courir, pour que notre équipe, pour que son équipe s'agrandisse et que les villes, l'Évangile progresse. Chers amis, que l'Esprit Saint souffle sur son Église, sur chacun de nous, pour nous donner un souffle nouveau, pour nous aider à reprendre souffle si nous en avons besoin, pour courir ensemble, unis et humbles, jusqu'à la ligne d'arrivée. Amen.